Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, BFM Patrimoine se met à votre service pour vous aider à déclarer au mieux vos impôts. Les deux heures seront intégralement consacrées à cette question avec tous nos experts pour répondre aux questions que vous nous avez posées ces derniers jours. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on survole l'actualité économique et c'est Faïza Younzi qui est aux commandes.
BFM Business, l'info éco.
Le projet de loi sur le partage de la valeur présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, un projet fidèle à l'accord conclu en février dernier entre syndicats et patronats. Son objectif est de généraliser le partage des bénéfices des entreprises avec les salariés à travers l'intéressement, la participation ou encore le versement de primes. Les dividendes versés dans le monde au premier trimestre battent encore des records. Ils dépassent les 326 milliards de dollars en progression de 12% sur un an, dopés notamment par les dividendes qui ont été versés par les banques, les groupes pétroliers ou encore les constructeurs automobiles. L'inflation britannique passe sous la barre des 10%, première fois sous ce seuil depuis le mois d'août, mais la hausse des prix reste très élevée, plus 8,7% sur un an en avril. C'est la plus forte inflation des pays du G7. Les prix alimentaires continuent de flamber à quasiment plus 20% sur un an. L'inflation pèse sur le bénéfice de Marks & Spencer qui affiche un profit annuel en recul de 8% à 544 millions d'euros pour son exercice décalé. Malgré des ventes en croissance, l'inflation alourdit les charges de l'enseigne britannique. Pour le prochain exercice, Marks & Spencer prévoit une croissance modeste de son chiffre d'affaires. L'Allemagne est en pole position pour accueillir l'usine européenne de TSMC. Le géant taïwanais des semi-conducteurs envisage de la construire à Dresde d'après les déclarations de son PDG. Elle devrait fabriquer des puces dédiées à l'automobile. Les discussions sont en cours depuis plus d'un an maintenant. TSMC possède déjà des usines en Asie et bientôt aux États-Unis, mais encore aucune en Europe. Toujours dans le secteur des puces, Apple signe un méga contrat avec Broadcom pour plusieurs milliards de dollars et sur plusieurs années. Apple essaye de diversifier ses fournisseurs hors de la Chine. Le fabricant américain devrait lui fournir notamment des composants qui servent à capter la 4G, la 5G. La course à l'intelligence artificielle Anthropic, le rival de ChatGPT, vient de lever 450 millions de dollars. L'entreprise a d'ailleurs été fondée par d'anciens dirigeants d'OpenAI à l'origine de ChatGPT. Anthropic est soutenu par Google. Et on termine avec le partage de comptes sur Netflix. C'est terminé puisque la plateforme a restreint le partage des mots de passe hors du foyer dans plus de 100 pays, dont la France. Pour le partager, il faudra désormais débourser 6 euros de plus par mois. Plus de 100 millions de foyers partageaient leurs comptes, ce qui pesait sur la capacité de la plateforme à investir dans de nouvelles productions.
Merci beaucoup Faïza. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, on fait un détour sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Pour prendre le pouls de cette première heure, c'est Antoine Larry-Gaudry qui nous attend chez Euronext. Bonjour Antoine. Que se dit-on sur les marchés?
Bonjour Cédric. Ça va pas fort. Hein. Globalement, ça va pas fort. On en est à notre deuxième séance de suite de correction assez marquée. Ça avait commencé hier. Alors, de manière assez singulière, ça avait commencé du côté de la bourse de Tokyo, qui sortait de 8 hausses consécutives et qui avait atteint un plus haut de 33 ans. Et puis, la tendance s'est brusquement inversée en cours de matinée. On a vu que ça avait eu un impact sur l'ensemble des indices européens, qui ont donc terminé sur une correction marquée, notamment à Paris, plus d'1% de baisse pour le CAC 40. Et là, ça continue sur une cadence assez forte, hein, moins 1,56%. Et on retombe à 7263 points. On est sur des plus bas de quasiment deux mois. Et pas mal d'interrogations autour de ce mouvement qui est assez brusque, hein, de correction. Alors déjà, il y avait énormément de bénéfices à prendre sur bon nombre de secteurs. Et on l'a vu hier, notamment le secteur du luxe, qui a dû batailler ferme, hein, pour ne pas signer des baisses à deux chiffres. Parce que ça s'est vraiment, vraiment accéléré, notamment en fin de séance. Impact de la hausse des taux obligataires 10 ans, crainte de voir les parts de marché de ces groupes s'effilocher au fur et à mesure que la conjoncture devient un petit peu plus incertaine, notamment du côté du marché américain. On avait eu une étude négative au matin là-dessus. Là, c'est pas forcément le secteur du luxe qui pèse le plus, mais la correction se poursuit autour des indices européens, puisque l'Eurostoxx 50 perd 1,38% et moins 1,24% pour le DAX à Francfort. La plus forte baisse du côté du CAC 40, c'est Stellantis, qui recule de 3% à 14,78€. Et c'est vraiment le secteur auto qui fait l'objet des dégagements sectoriels les plus forts, puisque Renault perd 2,25% à 32,94€, et que la plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Forcia, qui perd 3,3% à 20,39€. Un peu de luxe quand même, L'Oréal recule de 2,42% à 402,60€. Les valeurs de luxe, mais aussi les valeurs de la tech qui sont attaquées aussi. ST Micro, moins 2,26% à 40,60€. On a Téléperformance, moins 2,43% à 156,50€. Ou encore Worldline, moins 2,12€ à 39,75€. Indicateur technique intéressant, un titre en hausse sur le CAC 40 quand même, c'est Orange, qui gagne 0,67% à 11,68€. Sur le SBF 120, la plus forte hausse, elle est pour Voltalia, qui gagne 0,8% à 14,62€. Edenred gagne 0,26% à 60,78€. Mais tout le reste est à la baisse. Il n'y a vraiment que du rouge sur les écrans. L'autre chiffre qui a un peu perturbé cette entame de séance, c'est aussi l'inflation au Royaume-Uni. Faïsa vous en parlait, mais 8,7%. Certes, on passe sous la barre des 10%, mais les prix alimentaires flambent de 20% et l'inflation reste quand même fondamentalement supérieure aux attentes. Ce qui ne fait que s'ajouter au petit pot de nouvelles négatives de ce matin qui alimentent les échanges. Donc, moins 1,36 pour le CAC. On est à 7,278 points et l'euro reste loin sous les 1,08$. On est à 1,0780, Cédric.
Merci beaucoup Antoine Larivaudry, chaque matin pour vivre au rythme de cette première heure de cotation. Les marchés de retour dans 25 minutes grosso modo pour le match de nos traders. D'ici là, on répond à toutes vos questions sur la déclaration d'impôt.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
C'est une édition spéciale que vous propose ce matin BFM Patrimoine et on accueille Jean-Louis Delauro, rédacteur en chef adjoint du site BFM Business.
Bonjour Cédric.
Bonjour Jean-Louis. Finalement, en 2023, il y a pas mal de nouveautés niveau impôt. Déjà, comme chaque année, on a les barèmes qui sont là, relevés.
Oui, alors ça c'est un classique, hein. Tous les ans on relève les barèmes, et cette année la revalorisation est assez importante, c'est plus 5,4% afin de tenir compte de l'inflation. Concrètement, vous le savez, l'impôt en France, il fonctionne par tranche. Vous ne payez rien jusqu'à tel seuil, puis après c'est 11% jusqu'à tel autre seuil, puis 30% au-delà de tant de revenus. Et donc ce sont ces tranches du barème là qui sont augmentées et revalorisées de 5,4%.
L'idée c'est de prendre en compte l'inflation.
C'est ça. Et donc c'est intéressant, notamment si vos revenus n'ont pas augmenté, vous, de 5%, ben là c'est vraiment intéressant. Par exemple, le seuil à partir duquel on commence à payer 30% d'impôt sur le revenu, il passe de 26 071 €, c'est précis, à 27 479 €. Alors concrètement, cela va permettre à de nombreux contribuables de payer un petit peu moins d'impôts. Après, c'est pas mirobolant, là on parle de quelques dizaines d'euros économisés.
Toujours ça.
Mais c'est toujours ça de prix.
Non, il y a aussi des plafonds qui sont relevés, par exemple, pour certains crédits d'impôt.
Alors avant ça, je voulais aussi parler du barème kilométrique, parce que ça concerne pas mal de personnes, parce qu'on est aussi sur du plus 5,4%. Et on vous le rappelle, le barème kilométrique, c'est quand vous êtes au frais réel, au lieu d'avoir l'abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels, le classique. Et donc vous mettez au frais réel, et là c'est les charges domicile, enfin de trajet domicile-travail. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que ça dépend du nombre de kilomètres parcourus au cours de l'année, du nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule, etc. Bon voilà, mais il y a un simulateur sur le site des impôts. Et puis tant qu'on est dans les frais réels et l'automobile, vous pouvez aussi désormais déduire vos dépenses de covoiturage. Et ça, c'est une première, c'est la première fois cette année. Alors bien sûr, c'est pareil, c'est pas toutes vos dépenses de covoiturage. Si vous partez en Bretagne, ça marchera pas, en tout cas, sauf si c'est pour le travail. Mais voilà, ça va être pour vos trajets domicile-travail, parce que ça s'est pas mal développé ces dernières années.
On rappelle quand même que quand on veut être au réel, il faut être hyper scrupuleux. Certes, on peut y gagner, fiscalement, mais ça demande un formalisme.
C'est ça. Et puis, il faut mieux avoir tout un tas de papiers de côté, de factures, bah ouais, etc.
Il faut tout
de charges qu'on peut justifier. Ouais. Et il faut les garder au moins 5 ans. Donc voilà, il faut être un peu prudent. Donc là, vous me parliez tout à l'heure des quelques plafonds qui sont aussi relevés. Donc là, ce n'est pas les barèmes, mais c'est plutôt les avantages fiscaux. Donc il y a la hausse d'un crédit d'impôt qui va intéresser pas mal de personnes. C'est quand vous employez une personne à votre domicile pour la garde de vos enfants de moins de 6 ans. Là, vous pouvez faire baisser vos impôts de 600 euros de plus, si je résume. Parce qu'en fait, le montant maximal qui va être pris en compte, hein, on prend jamais tout en compte, il y a souvent des plafonds. Bah là, le plafond, il est passé de 2300 euros de dépenses qu'on prenait en compte à 3500 euros. Donc là, ça fait quand même une belle augmentation. Et puis, deuxièmement, il y a du nouveau pour ceux qui sont concernés par les heures supplémentaires défiscalisées. Donc le plafond, il était à 5000 euros, il passe à 7500 euros.
Bon, bah, voilà, quelques augmentations dues, entre guillemets, à l'inflation et qui sont bien évidemment une des nouveautés de tout cela. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les autres exonérations d'impôts? Qu'est-ce qui change?
Alors là, c'est pareil, il y a eu quelques petits ajustements à droite à gauche. Déjà, les pourboires sont exonérés d'impôts sur le revenu et même de cotisations sociales cette année. Le gouvernement estime que cela pourrait booster le développement des pourboires par CB, par carte bleue. Alors, je vous explique le raisonnement. Hein. Les gens ont de moins en moins de cash sur eux, oui. Ça on le sait, et ils perdent de plus en plus le réflexe de verser des pourboires. En parallèle, hein, les patrons, bah, jusque-là, ils étaient un petit peu réticents, ils ne voyaient pas d'un très bon œil les cartes bleues pour les pourboires, pour une raison simple, hein, c'est que les transactions en carte étaient automatiquement déclarées et taxées. Donc là, le gouvernement essaye de rendre moins réticents les patrons pour proposer à leurs clients de verser des pourboires en CB. Bah, vous verrez si... dans les mois qui viennent, dans votre restaurant et tout, on vous propose ça, vous verrez si ça marche. Au niveau des impôts, vous devez quand même déclarer vos pourboires avec une nouvelle case qui est prévue pour soi, mais vous ne paierez aucun impôt dessus. Enfin, il y a une limite, hein, c'est 1,6 SMIC dans la limite, enfin pour ceux qui gagnent moins de 1,6 SMIC. Alors, autre exonération, celle des RTT que vous monétisez. Donc ça va plus parler au cadre. C'est-à-dire les RTT hein, que vous ne prenez pas et que votre employeur finit par vous payer. Eh bien, ils sont exonérés d'impôts sur les revenus. Alors pareil, il y a une limite, c'est 7500 euros au maximum. Et c'est dans la même case, il faut aussi prendre en compte les heures supplémentaires exonérées dont on a parlé juste avant. Donc tout ça doit passer sous le plafond de 7500 euros. Et il y a une dernière exonération d'impôt qui est reconduite, c'est celle sur les allocations pour les frais de télétravail dont on avait pas mal parlé. Quand votre employeur vous verse de l'argent en compensation de votre télétravail, parce que vous avez un ordinateur, une connexion Internet, etc. Donc là, c'est jusqu'à 580 euros sur toute l'année qui peuvent être exonérés d'impôt.
Donc là, c'est tout ce qui touche, en gros, à l'IR. Faut qu'on parle aussi de la taxe d'habitation.
Bah bien sûr, parce que c'est le plus gros mouvement, entre guillemets, c'est la taxe d'habitation, qui est supprimée cette fois-ci. Plus 1 euro de taxe d'habitation pour plus personne, y compris les ménages aisés.
Sur la résidence principale.
Voilà, c'est ce qu'il faut rappeler sur la résidence principale. Parce que si vous avez une résidence secondaire ou un logement vacant, et ben, en fait, vous devez toujours la payer.
Et d'ailleurs, c'est un peu dans cette optique qu'il y a... Alors, c'est pas dans la déclaration d'impôt, mais enfin, collez-vous-en tant que vous êtes en train de faire votre déclaration d'impôt, puisqu'on est jusque-là, jusqu'au 30 juin, je crois.
Tout à fait.
Il y a une nouvelle procédure qui concerne nos biens immobiliers, c'est ça ?
Tout à fait. Et ça, c'est pareil. C'est la première fois que le fisc demande autant d'éléments. C'est le service de déclaration du statut d'occupation des biens immobiliers. Grosso modo, hein, le fisc demande au propriétaire de nouvelles informations qu'il n'a pas toujours forcément en sa possession. Pour tous vos biens immobiliers, quand vous êtes propriétaire. Donc, est-ce que c'est bien votre résidence principale? Est-ce que c'est une résidence secondaire? Est-ce que c'est occupé ou non? À titre gratuit? Est-ce que c'est vacant? Voilà, il va falloir répondre à toutes ces questions. Vous l'avez dit avant le 30 juin prochain inclus. Et c'est une déclaration à part de celle des revenus. Hein. Et donc, vous allez sur le site impots.gouv.fr. C'est l'onglet « Gérer mes biens immobiliers ». Normalement, le fisc affiche déjà pas mal d'informations hein, dont il dispose. Mais si elles ne sont pas complètes ou inexactes, vous devez demander à les corriger. Et là, vous envoyez ça par un message. Pour l'instant, c'est pas hyper bien fait. Il faut envoyer un message au fisc pour corriger. Et si vous oubliez de déclarer ou vous faites une erreur, hein, le fisc peut vous donner une amende de 150 euros par local.
A priori, cette année, il n'y aura pas d'amende.
De ce que j'ai compris, de ce que j'ai compris de Bercy, ce qu'ils m'ont dit, oui, normalement, on devrait être un peu plus souple la première année.
Allez, on termine d'un petit mot sur la taxe foncière, parce que on en a beaucoup parlé cette année. Je crois qu'on en parlera encore les mois qui viennent.
Oui, la taxe foncière, ça va être un gros sujet, bah, surtout quand ça va arriver dans plutôt la deuxième moitié de l'année. On sait que ça a fortement augmenté. Hein. Il fallait s'y attendre, parce que finalement, c'est un peu un jeu de bonneteau hein, qu'on nous a fait là avec la suppression de la taxe d'habitation, parce que c'est la taxe foncière reste le seul véritable impôt local sur lequel les collectivités ont la main. Donc forcément, bah en fait, c'est là-dessus qu'elle se rattrape. Alors, pourquoi ça a flambé cette année ? Déjà, vous avez, un, la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. C'est ce qui sert de base de calcul pour la taxe foncière. Là, on connaît déjà le chiffre. Hein. Au niveau national, c'est plus 7,1%. Donc, c'est très important pour tout le monde, partout en France, en 2023.
Donc, le minimum, ce sera 7,1%. Et après passeront les volontés des uns et des autres.
Et après, vous avez le taux. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué parce que vous pouvez jouer sur les abattements, etc. Mais grosso modo, oui, ça va être plus 7% minimum. Ensuite, vous avez le taux qui s'applique à ces valeurs locatives. Et là, c'est pareil. Alors, il y a trois taux. Hein. Il y en a un pour les communes, un pour les intercommunalités et un pour les départements. Donc, ils ont le droit de le baisser, d'ailleurs, on le signale à ceux qui nous écoutent. Mais généralement, ils l'augmentent. Donc, certaines villes ont validé des hausses très, très importantes, comme à Paris, hein, je tiens à le souligner. La maire Anne Hidalgo, qui avait pourtant promis de ne pas augmenter les impôts locaux avant de se faire élire, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Le taux qui s'applique aux valeurs cadastrales va s'envoler de 52% par rapport à 2022. Mais il faut y ajouter aussi la valeur la hausse des valeurs locatives cadastrales. Donc là, on va frôler les plus 60% d'augmentation pour la taxe foncière pour les Parisiens sur un an, donc c'est pas mal. Et il y a d'autres grandes villes hein, qui ont annoncé des hausses de taux, comme à Bordeaux, c'est 4,5%, alors juste pour le taux. Lyon, on va être autour de plus 9%, Grenoble, plus 25%. Donc là encore, il faut y ajouter l'augmentation des valeurs cadastrales, donc ça risque de faire assez mal pour beaucoup de propriétaires, mais bon. Plutôt sur la deuxième moitié de l'année.
Jean-Louis Deloro, merci Jean-Louis. Et on accueille maintenant Paul-Louis qui s'est penché, lui, sur les questions de revenus de type Airbnb. Il ne faut pas oublier de les déclarer parce que les pouvoirs publics ont clarifié les règles.
Oui, effectivement, plusieurs lois sont venues renforcer les obligations fiscales des plateformes de l'économie collaborative ces dernières années. Et désormais, depuis 2020, eh bien, ces plateformes, elles ont l'obligation d'envoyer au fisc un récapitulatif des revenus perçus par chaque loueur au cours de l'année écoulée. Mais attention, car si ces revenus sont bien connus de l'administration fiscale, ils ne sont pas pré-remplis dans la déclaration de revenus. C'est donc le loueur lui-même qui va devoir vérifier l'exactitude des montants et les reporter dans les cases correspondantes.
Comment on s'y prend ?
Eh bien, tout dépend de la situation du propriétaire. Prenons le cas le plus fréquent, celui d'un propriétaire non professionnel qui loue un logement meublé. Première hypothèse, il loue une ou plusieurs pièces de sa résidence principale et ses revenus n'excèdent pas 760 euros par an. Dans ce cas-là, aucun problème, il n'aura même pas besoin de déclarer ses sommes. Mais c'est une exception, puisque dans le cas contraire, donc si les revenus sont supérieurs à 760 euros par an, ou s'il s'agit tout simplement d'une résidence secondaire, eh bien là, le loueur, il aura le choix entre deux régimes fiscaux, le régime micro-BIC pour bénéfices industriels et commerciaux, ou le régime réel.
Alors, quel régime faut-il choisir ?
Là encore, c'est une question de niveau de revenu. Si vos recettes sont supérieures à 72 600 euros par an, vous n'aurez pas le choix, ce sera le régime réel qui s'appliquera automatiquement. En revanche, si vos recettes sont inférieures à ce seuil de 72 600 euros, eh bien là, vous pourrez choisir entre les deux régimes, même si le fisc préconise généralement d'opter pour le régime micro-BIC, qui est le plus simple et le plus adapté aux activités occasionnelles. Donc avec ce régime micro-BIC, effectivement, c'est assez simple. Il suffit de reporter ses revenus dans la case 5ND du formulaire. Et là, je précise qu'on parle des revenus bruts, donc à savoir les revenus issus de la location, mais également les frais de gestion ou encore les frais de ménage. Une fois ces revenus déclarés, eh bien là, vous bénéficierez toujours avec le régime micro-BIC d'un abattement de 50%. Donc concrètement, vous ne serez imposé que sur la moitié de vos revenus. Par exemple, vous déclarez 6 000 euros de revenus Airbnb dans l'année, eh bien vous serez imposé sur 3 000 euros. Oui. Et si votre tranche d'impôt est, disons, de 30%, eh bien l'impôt à payer sera 30% de 3 000 euros, soit 900 euros, auxquels il faudra ensuite ajouter les prélèvements sociaux. Et puis j'ajoute que le montant minimal de cet abattement, c'est 305 euros par an. Donc si vos recettes sont inférieures à cette somme, vous n'aurez pas d'impôt à payer.
Et le réel, c'est pas intéressant ?
Disons que c'est un régime un peu plus complexe.
Ouais, et davantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, c'est très
c'est
formel.
C'est davantage adapté aux activités professionnelles, mais il n'est pas toujours à exclure, hein, loin de là. Il est notamment très intéressant lorsque vous avez beaucoup de charges, puisque contrairement au régime micro-BIC qui permet de bénéficier d'un abattement, le régime réel, lui, permet de déduire toutes vos charges de vos revenus, que ce soit les frais d'administration, les dépenses de réparation, les primes d'assurance même. Et surtout, il permet de déduire l'amortissement du bien et du mobilier.
Voilà pour les obligations fiscales. Mais ça rapporte combien, finalement ?
Alors, en 2022, le revenu médian d'un particulier qui louait son logement sur Airbnb, eh bien, c'était un peu plus de 3 900 € bruts, selon le cabinet Asterès. Et donc, sur cette somme, il fallait compter à peu près 800 € d'impôts, mais aussi de taxes.
Bon, ben voilà, quelques idées à avoir. Ce gain, qu'est-ce qu'il peut devenir ? Parce que, voilà, on va se poser clairement les choses. Est-ce que ça peut se durcir ?
Oui, c'est très, très possible, puisqu'il y a 4 parlementaires qui ont récemment formulé des propositions pour mieux réglementer la location de meublés. Et côté fiscalité, eh bien, ces 4 parlementaires, ils suggèrent tout simplement de s'attaquer à la niche fiscale qui permet, nous l'avons vu, de bénéficier d'un abattement de 50%. Et s'ils souhaitent le supprimer, cet abattement, eh bien, c'est pour ne pas avantager les locations saisonnières par rapport aux locations de longue durée pour lesquelles l'abattement n'est que de 30%. Alors la suppression de l'abattement, elle a fait l'objet d'une proposition de loi dont l'examen a d'ailleurs été reporté hier par le gouvernement. Et pourtant, le gouvernement, lui, semble plutôt ouvert à cette proposition, en tout cas à... si ce n'est pas la suppression de l'abattement, un aménagement, puisque le ministre du Logement, Olivier Klein, a déclaré, je cite, qu'il était favorable à ce que la fiscalité des revenus locatifs ne favorise pas les locations saisonnières au détriment de celles à titre de résidence principale. On devrait en tout cas en savoir plus prochainement, puisque un groupe de travail interministériel dédié au meublé touristique doit rendre ses conclusions d'ici l'été.
Merci beaucoup Paul-Louis pour le site BFM Business qui nous emmenait dans les arcanes de cet aspect Airbnb de la déclaration d'impôt. À très bientôt.
Merci.
On marque une toute petite pause et on continue à vous donner un maximum de conseils liés à cette déclaration d'impôt.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Et on accueille Ludovic de Jouvencourt. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Prélo. Et on va continuer à naviguer dans ce monde de l'immobilier et de la déclaration d'impôt en regardant un petit peu comment sont imposées telle ou telle fraction de ces revenus. D'abord sur la résidence secondaire, comment est-on imposé ?
Alors tout dépend le mécanisme de détention que vous avez. Et donc mes deux prédécesseurs dans l'émission en ont parlé. Il y a 3 niveaux d'imposition qu'on peut constater sur une résidence secondaire. Ce sont évidemment les impôts et taxes locales, donc la taxe foncière et la taxe d'habitation. À savoir que sur la taxe d'habitation, la disparition de cette taxe sur les résidences principales a amené à une accélération de la majoration, de la taxe, de cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires jusqu'à 60%. Et donc il faut évidemment bien sélectionner l'endroit dans lequel on va acheter sa résidence secondaire, parce qu'on peut sinon avoir de très mauvaises surprises. Après, il y a évidemment les revenus locatifs issus de la location saisonnière. Et donc dans ce cas-là, comme en parlait mon prédécesseur, le régime LMNP est le plus adapté, avec le choix évidemment entre...
On rappelle, loueur meublé non professionnel.
Tout à fait. Qui correspond à du bénéfices industriels et commerciaux, et donc auquel s'applique le régime micro-BIC avec un abattement de 50% forfaitaire, ou le régime réel dans lequel on va déduire les travaux, la valeur du bien et la valeur des meubles dans l'amortissement, et donc en fait qui permet d'avoir un niveau de décote fiscale relativement intéressant. Et le dernier point qui va jouer sur la fiscalité d'une résidence secondaire, c'est la plus-value sur la revente. Et donc là, plusieurs cas s'appliquent. Il y a un cas où on peut avoir une exonération totale de la plus-value, de la taxe sur la plus-value et des prélèvements sociaux, dans le cas où on n'a pas été propriétaire de sa résidence principale pendant les 4 années précédentes. C'est une détention directe, c'est-à-dire on ne le détient pas par le biais d'une SCI, et on s'engage à faire un remploi du montant du prix de cession pour acheter sa résidence principale. Dans ces cas-là, il suffit d'inscrire le montant dans la déclaration 2042C, case 3VW, pour avoir une exonération totale. Il y a un plafond de 150 000 € qui s'applique dans ce cas-là pour les non-résidents fiscaux français. Ensuite, si ça ne s'applique pas dans le cas d'une détention en nom propre ou en SCI, on a un un taux d'imposition de 19% sur cette plus-value et des prélèvements sociaux qui montent jusqu'à 17,2% en fonction de la durée de détention. À savoir que on est complètement exonéré de la quote-part d'impôt si on a une durée de détention qui dépasse les 22 ans et on est totalement exonéré de la part de prélèvements sociaux si on a une durée de détention qui dépasse les 30 ans.
Qu'est-ce qu'on doit déclarer une fois qu'on rentre dans toutes ces... Enfin voilà, qu'est-ce qu'on doit déclarer?
Typiquement, sur la partie revenu locatif, on doit déclarer son résidu fiscal, c'est la marge fiscale qu'on va réaliser. Donc c'est les revenus locatifs réduits de toutes les charges qu'on a réalisées. Et donc, comme je le disais, les charges, c'est évidemment, dans le cas de la location saisonnière en Airbnb, c'est les frais de conciergerie, c'est l'électricité, toute la... le nettoyage des draps, le ménage, etc. Mais c'est également l'amortissement du bien, des travaux et des meubles qu'on a acquis pour opérer cette location saisonnière. Et donc évidemment, nous possédons ces éléments depuis une durée courte, c'est-à-dire on vient d'acheter la propriété, on vient de faire les travaux et on vient de meubler, il y a un niveau d'amortissement qui est plus élevé. Et donc sur le régime réel, le taux de décote et donc de réduction de l'assiette fiscale imposable va permettre d'avoir une fiscalité proche de zéro.
Juste un petit mot, Ludovic, parce que vous avez parlé tout à l'heure, enfin, vous avez prononcé le mot SCI.
Tout à fait.
Ça rime, enfin, on peut faire rimer location, meublé, SCI et IR.
Excellent point. En fait, il n'est pas possible aujourd'hui de faire de la location meublée en SCI à l'IR classique, parce que c'est une activité commerciale. En revanche, la SCIA, Société Civile Immobilière d'Attribution, permet de faire de la location saisonnière meublée, malgré le fait que cette SCI soit à l'IR et qu'on soit en détention en nom propre. Et ça, c'est grâce à un mécanisme qui permet de différencier le bien de son droit de jouissance. Parce que typiquement avec Prélo, quand on achète une part de SCIA, donc une part de résidence secondaire, on a un droit de jouissance dans ce bien que nous allons coordonner avec les différents copropriétaires pour que cette personne puisse partir en vacances. Et ce droit de jouissance, au regard de son sa quote-part restant dans la propriété, elle a la possibilité de le louer sans considérer le fait que c'est une SCI à l'IR. Donc c'est très intéressant fiscalement.
Ouais, on est un tout petit peu pris par le temps. Juste, rappelons, vous avez parlé des résidences secondaires. On a rappelé qu'elles étaient toujours soumises à la taxe d'habitation. Quand on revend une résidence secondaire, il y a une fiscalité particulière?
Tout à fait. Comme je le disais, donc on a le cas de l'exonération. Si on n'a pas possédé sa résidence principale.
Donc si on est locataire soi-même et qu'on a fait un investissement locatif et qu'on part par exemple à la retraite et qu'on se dit je vais aller acheter ma résidence principale, là pour le coup on rentre dans cette case 5VW que vous avez évoqué tout à l'heure.
3VW de la 2042C. Et en revanche, que ce soit en détention SCI ou en détention non propre, c'est le mécanisme d'abattement classique qui va s'appliquer avec en fonction de la durée de détention, une réduction des 19% d'impôts ou des 17,2% de prélèvements sociaux.
Et pour la plus-value, c'est pareil.
C'est exactement ça.
Merci beaucoup, Ludovic.
Merci à vous.
Ludovic de Jouvencourt, donc Prélo, qui nous accompagnait dans cette édition spéciale consacrée à l'impôt sur le revenu. On vous accompagne durant les 2 heures pour que vous ayez tous les tuyaux pour bien remplir vos déclarations d'impôt. On fera quand même un petit détour sur les marchés, c'est notre promesse également. Nos traders nous attendent. Mathieu Céron, du côté de Perceval Finance Conseil, et Gilles Santacreux chez Boursicoté. À tout de suite.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.
On vous accompagne jusqu'à midi dans cette édition spéciale, sans oublier bien évidemment notre point régulier sur les marchés. Et c'est l'heure de retrouver nos deux traders, Mathieu Céron, Gilles Santacreux. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Gilles, comment se positionner avec cette baisse assez franche aujourd'hui?
Alors c'est toujours compliqué de se positionner dans ce type de marché. Ce que l'on a, c'est une forte baisse, un gap baissier qui est relativement conséquent et des signaux, je dirais, d'excès au niveau de ce mouvement baissier qui arrive dès le début de la séance. Tous les marqueurs sont là. On a énormément de décalage, on a des volumes qui plus est qui sont au-dessus de la moyenne et je dirais que la réaction première que l'on est tenté d'avoir dans ce type de marché, c'est d'être contre contrariant, c'est-à-dire de se dire, bah là, il y a des phases d'excès, donc on va jouer le rebond. Sauf que tout nous indique aussi que nous avons une conviction qui est assez forte. Alors pourtant, cette baisse, elle est essentiellement liée au, bah, je dirais, au mur de la dette. Hein. On voit que les discussions ont du mal à avancer. On a eu les PMI hier aussi du côté des États-Unis qui ont un petit peu déçu. On est aussi dans une phase d'attente puisque nous aurons les minutes de la Fed ce soir. Et avec ça, on a du mal à voir pour l'instant de quoi pourrait venir ce rebond. Alors il faut être vigilant. Il va falloir surveiller les niveaux techniques. Le premier niveau, je dirais, de rebond qui pourrait nous donner des espoirs de retour à des phases de cotation un peu moins difficiles, si j'ose dire, serait 7335 points. C'était la zone de cassure que nous avions auparavant. Cette zone, elle a été cassée sur le gap qui s'est ouvert ce matin. Et donc, c'est le retour sur ce niveau qui pourrait commencer à nous autoriser à souffler, si j'ose dire. Donc, pour l'instant, on est vraiment dans une phase d'accélération baissière. On a vu qu'il y a une petite pause là qui est en train de se mettre en place. Mais globalement, c'est fortement baissier. On le voit d'ailleurs au niveau du palmarès des valeurs. On a les valeurs industrielles qui souffrent pas mal hein, de la baisse actuelle. Et pour l'instant, en absence de signal, je dirais fort, eh bien, on est dans un mouvement baissier. Il ne faut pas aller contre le marché, laisser passer ce mouvement et voir lorsque l'on a des premiers signaux d'un éventuel rebond ou d'un essoufflement de cette phase de baisse, effectivement, pouvoir se positionner sur un éventuel rebond. Mais attention, on est sur un marché qui potentiellement peut devenir très volatile.
Mathieu, votre sentiment sur cette baisse d'un 57% et sur ces 7262 points ?
On a un CAC qui nous fait exactement le même mouvement que nous avons eu fin avril, début mai, à savoir une baisse qui est partie de 7480, qui est allée jusqu'à 7240. Là, on est allé chercher un petit peu plus bas, on est allé chercher 7220. Donc lundi, j'attirais votre attention sur le fait que sur le CAC, on était en situation de double top. Eh bien, cette figure-là a fonctionné. Et depuis des semaines, nous avons fait une articulation par rapport au support à 7220, considérant que tant qu'on était au-dessus, eh bien, on avait des probabilités de rebondir qui étaient supérieures. Eh bien, ça s'est validé tout à l'heure, hein, puisqu'on a tapé ce niveau, 7220. Donc tous les niveaux que je propose sont sur le futur. Il y a environ 22-23 points d'écart avec l'indice puisqu'il reste encore des dividendes à détacher. Donc 7220 a fonctionné comme support. On a eu un petit rebond d'une trentaine de points et il faudrait pas trop enfoncer cette zone-là. On a un petit pivot 7200-220. Si on commence à passer un petit peu en dessous, on entrerait dans une zone d'attraction baissière. Mais ce qui domine, bien évidemment, c'est la méfiance, c'est la nervosité avec en ligne de mire, bien évidemment, le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis. Une issue est tout de même le plus probable, mais on a des opérateurs qui sont très nerveux à l'image de ce qui s'est passé sur les valeurs du luxe hier, avec par exemple Hermès qui réalise lundi un plus haut historique, et puis hier, -6,5. Donc, vous voyez, c'est assez perturbant, tous ce marché-là, c'est tout ou rien. On a eu une phase de rien pendant 2-3 semaines. Et puis là, ça s'excite avec des mouvements extrêmement violents, des écarts rapides aussi. Donc c'est assez perturbant. Sur le fond, est-ce qu'il y a de quoi être très inquiet ? Pas vraiment. Et quand on regarde un petit peu ce que font les insiders, que ça soit les directions d'entreprise ou les familles, on voit qu'il y a toujours des achats sur LVMH, il y a toujours des achats sur Bouygues, sur ses actions. Donc, en toile de fond, bien évidemment, la deadline de la dette, des marchés qui sont nerveux. Et je finirai juste par la volatilité implicite. Vous voyez, lundi, je vous disais qu'on était à 11,7 de volatilité implicite, donc volatilité déduite des primes d'options. Là, elle flambe, cette volatilité, puisqu'on est à 15, soit une hausse de 30%. Donc on voit bien qu'il y a quand même pas mal de méfiance, ce qui est une bonne chose pour la suite d'ailleurs.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Mathieu Céron depuis Perceval Finance Conseil, Gilles Santacreux, boursicoté.com, et nous on reprend le fil de notre édition spéciale consacrée à votre déclaration d'impôt.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Journée spéciale hier, donc l'IR qui fait partie de la liste des prélèvements obligatoires. C'est une recette publique comme une autre, mais vous nous dites que ça n'est pas un impôt comme les autres, c'est-à-dire ?
Non, c'est un impôt unique en son genre. Premier point, autrefois on disait pas IR mais IRPP, impôt sur le revenu sur les personnes physiques. C'est l'impôt qui vous rentre dans la chair, celui-là. Vraiment, il est pour vous. IRPP, personne physique, ça avait un sens. C'est l'un des éléments qui fait que c'est un impôt complètement en dehors des autres. Après, l'IR, c'est le seul impôt sur lequel on vous impose une démarche administrative. Bon, il y a la TVA pour les entreprises, mais je parle des particuliers. Vous avez une déclaration à faire et vous avez une sanction si vous n'êtes pas dans les temps. Il n'y a pas d'autre impôt où vous vous retrouvez devant une telle situation. L'IR, c'est le seul impôt sur lequel chacun a un peu la main. L'objectif annuel, récurrent, c'est comment payer le moins possible en utilisant au maximum les outils de défiscalisation. Ça va être un rapport avec cet impôt qui n'est pas le même qu'avec tous les autres. Et ça va être un marronnier de la presse patrimoniale. Comment payer moins d'impôts dans toute légalité, bien évidemment.
Notre spécial voilà. Incluse.
Bon, quand vous entendez quelqu'un qui envoie à la cantonade « de toute façon, il y a plus de la moitié des ménages qui ne paient pas d'impôts », il pense à quoi quand il dit le mot impôt, à part impôt sur le revenu ? Parce que c'est complètement faux, tous les ménages payent des impôts. Tout le monde paye des quantités d'impôts, de taxes, de tout ce que vous voulez, de prélèvements obligatoires dans tous les sens, à commencer par la TVA. Mais quand vous dites ça, ils ne payent pas d'impôts, vous pensez en fait hier et vous pensez seulement hier. C'est le seul impôt qui provoque ces... Et là, c'est de la réaction psycho quasiment ce que je vous dis. Après, vous voyez régulièrement dans les débats politiques avec des objectifs politiciens purs, démagos, on veut jouer sur les tranches d'impôt sur le revenu, on veut jouer sur la dégressivité de l'impôt sur le revenu. C'est vraiment le marqueur de l'opposition des riches et des pauvres. C'est avec l'impôt sur le revenu et sa progressivité qu'on va réduire les inégalités. On a droit à ça à tous les coups dans toutes les campagnes politiques. Il y a effectivement 18 millions de foyers qui payent l'impôt sur le revenu en France, 20 millions qui ne le payent pas. Il n'y a pas de problème, on le sait, sur les 38 millions de foyers. Alors, et pourtant, c'est l'impôt le plus mal vécu. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne le payent pas, mais ceux qui le payent, généralement, ils payent, et car parfois, ils payent beaucoup. Quand vous entendez quelqu'un, pareil, là, je vous disais à la cantonade, vous dites, la moitié des Français ne payent pas d'impôt. Vous entendez quelqu'un qui vous dit « Oh, qu'est-ce que je paye comme impôt ?» À quel impôt il pense ? À la TVA ? Oui. À la CSG ? Non, il pense à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est un impôt qui a un côté passionnel, qu'on retrouve dans aucun autre prélèvement. Même pas dans la CSG, qui tape tout, les revenus du capital, les revenus du travail, les pensions de retraite. Même pas dans la CTA sur votre facture d'électricité, qui est juste là pour payer les retraites des électriciens gaziers. Vous pourriez vous indigner. Non, non. L'impôt sur le revenu, c'est... Ah ! Et tous les autres, en fait, on n'y fait pas attention. Et il y a un côté passionnel, parce qu'en fait, la vraie ponction de pouvoir d'achat, elle n'est pas dans l'impôt sur le revenu. Elle est dans la TVA, elle est dans la CSG, la CRDS, et les cotisations sociales prélevées sur les salaires. Les cotisations sociales prélevées sur les salaires, 500 milliards d'euros tous les ans.
Et ça pèse quoi, justement, l'IR ?
Ça pèse 87 milliards d'euros cette année, c'est-à-dire deux fois moins que la TVA. Pas négligeable, hein. Deux fois moins que la TVA, moins d'ailleurs que l'impôt sur les sociétés, et environ 40 milliards de moins que la CSG. Et bizarrement, je viens de vous dire que c'est un impôt passionnel, c'est un impôt pas comme les autres, c'est l'impôt qui fait réagir, c'est l'impôt qui fait s'indigner, et ben on a le plus faible IR du monde. Il pèse, il rapporte à peine 3,1% du PIB en France, tandis qu'un pays comme le nôtre, par rapport à son impôt sur le revenu, généralement la recette représente 9% du PIB. Donc ça rapporte trois fois moins que dans les autres pays. Il est très progressif, 10% de ceux qui payent cet impôt sur le revenu payent à eux seuls la moitié de la recette. Vous prenez les ménages français qui sont au-delà de 47 000 euros de revenus par an, c'est pas Bernard Arnault, hein, c'est quand même pas mal de monde, eh bien, ces gens-là, à eux seuls, ils apportent 70% de la recette d'impôt sur le revenu. Voilà pourquoi il est mal vécu. Voilà pourquoi ceux qui payent beaucoup, le vivent très mal. Et il est en fait très redistributif. Les 10% de la partie du pays la plus pauvre, ou les plus pauvres, eh bien, après la redistribution monétaire, ils voient leurs revenus augmenter de 55%. Donc il y a de la redistribution, il y a de la progressivité. Et en fait, quand vous regardez l'impôt sur le revenu, eh ben il coche toutes les cases du mauvais impôt. C'est un impôt qui rapporte peu, c'est un impôt qui est payé par de moins en moins de gens, et c'est un impôt qui est de plus en plus mal vécu par ceux qui le payent. Quand vous avez ces trois caractéristiques alignées, c'est pas un bon impôt.
Nicolas Dose, qui se joignait à cette édition spéciale qu'on vous propose ce matin jusqu'à midi et que vous retrouverez aussi dans 90 Minutes Business avec Sandra Gandoin. On la retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.
Et on accueille maintenant Mathieu Silva Santos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la clientèle privée de Good West. Et on va faire rimer placement et travaux verts et fiscalité, bien évidemment, histoire de déterminer quels sont les avantages fiscaux que vous pouvez trouver en tant que particulier. D'abord, Mathieu, est-ce qu'on ressent une appétence des Français en termes d'investissement durable ?
Complètement. Hein. Ça, c'est il y a un chiffre qui est assez simple. Hein. Aujourd'hui, en Europe, il y a à peu près un peu plus d'un euro sur deux, qui est orienté justement vers des solutions d'investissement responsable. Donc, on ressent l'appétence justement des particuliers de réorienter leur épargne et d'accélérer justement de contribuer à la transition écologique. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on a même plus de 60% des épargnants qui sont en demande d'investissement responsable. Et ça va en même temps dans le sens de l'histoire. Hein. Et le GIEC l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, il faut accroître la finance climatique et également justement les financements publics et privés qui vont être dédiés à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation.
Bon, mais ce sont des convictions environnementales ou ce sont des convictions fiscales qui motivent ce choix?
Alors on peut faire les deux, effectivement il y a des incitations pour justement inciter les particuliers à investir ou à rénover leurs bâtiments. On peut penser par exemple à la rénovation de bâtiments, aujourd'hui il y avait des aides qui étaient, alors il y avait des dispositifs fiscaux, notamment le crédit d'impôt transition énergétique qui était en vigueur, qui a été supprimé au profit d'une aide, notamment MaPrimeRénov. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'immobilier c'est l'une des sources les plus importantes d'émissions de gaz à effet de serre. On a à peu près 5 millions de passoires thermiques en France. Donc vous savez, ces foyers dont les DPE sont très faibles. Donc il faut inciter justement les particuliers à rénover leurs bâtiments, à réaliser des travaux d'isolation, de réhabilitation, pour tout simplement améliorer la performance énergétique de leurs biens immobiliers.
Alors, tâchons de les mettre sur la table. Quels sont les différents placements qui offrent des options ou des possibilités de défiscaliser?
Alors, il y en a plusieurs. On va en citer quelques-uns. Déjà, c'est l'investissement tout simplement dans ce qu'on appelle l'économie réelle, donc dans des sociétés, des PME, des petites et moyennes entreprises qui peuvent être orientées vers la transition climatique, qui vont développer des solutions innovantes pour la transition. Et lorsqu'on investit dans une PME qui va respecter certaines conditions, on peut bénéficier d'un dispositif qui s'appelle le dispositif IR-PME ou le dispositif Madelin, qui peut permettre d'obtenir justement une réduction d'impôt de 25% de l'investissement réalisé. Alors, 25% jusqu'au 31 décembre 2023. Potentiellement, ça pourra passer à 18% par la suite.
D'accord.
Donc ça, c'est un déplacement qui peut être intéressant. Un autre, nous, qui nous tient à cœur chez Goodvest, sont les forêts. Aujourd'hui, on peut investir dans l'exploitation, dans l'entretien de forêts, au travers de groupements forestiers, de GFI. Et là, pour le coup, on va cumuler plusieurs avantages fiscaux. D'une part, une réduction d'impôts, une exonération d'IFI et des avantages fiscaux également lors de la succession, puisqu'on peut bénéficier d'abattements lors de succession ou de donation de cet actif forestier.
La question qui se pose toujours quand il y a des incitations fiscales, c'est de se dire, est-ce que finalement le placement que je fais, il a un réel impact sur l'environnement?
Totalement. Si on reprend les deux exemples que j'ai cités juste avant, les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, de toute façon, il faut cibler nos investissements vers des sociétés qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux actuels et qui développent tout simplement des solutions alternatives pour la transition. Donc ça peut être de l'agriculture régénérative, des énergies responsables ou autres. Donc ça, c'est très innovant et il y a un impact direct. Sur les forêts, pareil. Aujourd'hui, les forêts sont les habitats naturels les plus importants de la biodiversité. C'est un des plus gros puits carbone aujourd'hui en France, hein, donc qui capture les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Donc c'est très important pour ralentir le réchauffement climatique. Donc typiquement, investir dans l'entretien, le reboisement, l'exploitation de forêts, ça a un impact direct aujourd'hui sur l'environnement.
Si on va au-delà de la défiscalisation, est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux que ces placements verts offrent? Et est-ce que dans ces cas-là, il y a une façon particulière de les insérer dans sa déclaration d'impôt?
Bien sûr, là, on a parlé des produits à défiscalisation, on va dire direct, qui offrent une réduction d'impôt, un crédit d'impôt. Aujourd'hui, il y a des enveloppes d'investissement toutes simples, comme par exemple l'assurance vie, qui offrent déjà des avantages fiscaux. Et si, à l'intérieur de ces assurances vie, on va favoriser des entreprises ou des projets justement qui vont œuvrer dans la transition écologique, ben on peut bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance vie. Et ils sont multiples, hein. Ça va être déjà une exonération au titre de l'impôt sur le revenu, des gains tant qu'on ne sort pas du contrat d'assurance vie, une fiscalité beaucoup plus allégée au bout de 8 ans, et un cadre juridique et fiscal totalement à part entière lors de la succession, sachant que c'est une enveloppe qui ne rentre pas dans l'actif successoral. Pareil, au-delà de l'assurance vie, on peut citer cette nouvelle enveloppe d'investissement, le PER, le plan épargne retraite, là pour le coup qui permet de bénéficier d'un avantage à l'entrée avec une déduction des versements directement de ses revenus imposables. Donc on peut utiliser finalement ces enveloppes pour favoriser la transition. Et ensuite, bien évidemment, alors c'est assez simple pour le particulier puisque les intermédiaires envoient des imprimés fiscaux uniques, donc tout est renseigné directement dans l'impôt sur le revenu.
Et quand ils sont bien faits, on nous dit exactement le numéro de la case.
Il y a déjà le numéro de la case, alors il faut toujours vérifier, c'est toujours sur la déclaration 2042 ou la déclaration 2042 complémentaire qui concerne justement les réductions d'impôts ou les crédits d'impôts dans ce cas-là. Il faut toujours faire une petite vérification, mais la plupart du temps, c'est directement transmis à l'administration fiscale.
Merci Mathieu. Mathieu Silva Santos, donc pour GoodWest ce matin, au cœur de cette édition spéciale. Un petit coup d'œil sur les marchés et on continue à vous donner des conseils.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Et c'est du rouge assez foncé qu'on observe ce matin à la Bourse de Paris, -1,58%, 7262 points. On n'est pas les seuls, hein. C'est l'ensemble de la cote européenne qui souffre ce matin, -1,5% pour l'Eurostock 50. Une seule valeur surnage à Paris, c'est Orange, +0,43 à 11,65€, et sinon de gros dégagements de plus de 3% sur Schneider, sur Stellantis, sur Vivendi. Du côté des devises, l'eurodoll est à 1,0782.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.
Bonjour Guillaume Berthiaud.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. On va échanger autour de la pierre papier, de la déclaration de ses revenus. Parfois, ça peut être un petit peu casse-tête. Vous allez donc nous expliquer comment on déclare bien ses revenus issus des SCPI, mais aussi quelques astuces pour éviter les erreurs, parce que si on fait une erreur, ça peut nous coûter cher. Alors dites-nous dans un premier temps, quelles sont les étapes clés de la déclaration ?
Alors bonne nouvelle, c'est pas si compliqué. Hein. Bon. Il y a simplement quelques points.
Mais quand on connaît, c'est jamais compliqué.
C'est vrai, mais il y a quelques points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Premièrement, le dividende. En réalité, un dividende de SCPI, c'est la composante de trois types de revenus. Vous allez avoir du revenu foncier. En priorité, ça semble logique, puisque je rappelle qu'une SCPI, c'est un fonds qui gère des biens immobiliers. Sur ce revenu foncier, il y a déjà un premier choix à faire. Est-ce que vous allez être au micro-foncier ou au régime réel ? Le micro-foncier, je rappelle, c'est 30% d'abattement forfaitaire. Et c'est deux critères à respecter. Je dois avoir maximum 15 000 euros de revenus fonciers bruts par an pour mon foyer fiscal. Et par ailleurs, je dois avoir un autre bien immobilier à donner en location. Donc, je ne peux pas avoir que des SCPI, sinon je ne suis pas éligible au micro-foncier. Une fois que je sais ça, si je suis éligible au micro-foncier, je le suis par défaut. Je dois me poser la question si j'opte pour le réel, comme pour n'importe quel revenu foncier. Le réel, je rappelle que la différence du micro-foncier, en fait, la SCPI vient défalquer l'ensemble des charges qu'elle a effectivement payées. Alors, comment je choisis entre le réel et le foncier ? Le micro-foncier, il faut que je fasse attention à ma situation fiscale, je vois avec mes autres biens immobiliers. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les SCPI, c'est en général plus intéressant d'être au réel, parce que la SCPI vient défalquer davantage que 30% de charges. Mais attention, si vous optez pour le réel, il faut se projeter un petit peu. Je rappelle que c'est 3 ans irrévocable. Et je rappelle également que ça vaut pour l'ensemble de vos foyers, enfin des revenus fonciers du foyer fiscal.
Voilà. Et on le fait pas ligne par ligne.
Et on le fait pas ligne par ligne. Donc ça, c'est le premier, dans le dividende, la première composition, la plus grosse part, c'est le revenu foncier. Vous avez également une part de revenus de capitaux mobiliers. Donc là, on est sur la 2042. Pourquoi est-ce qu'on a ce type de revenu dans un dividende de SCPI ? Parce que la SCPI n'investit pas immédiatement l'argent qu'elle perçoit des associés et des épargnants. Elle n'investit pas immédiatement dans l'immobilier, elle le place sur des comptes à terme, par exemple, comme on peut le faire, vous et moi, sur le livret A, par exemple. Et donc, ça procure des intérêts et ça rentre dans cette catégorie de revenus. La règle pour cette catégorie de revenus depuis le 1er janvier, c'est le fameux PFU, ou flat tax, donc je rappelle un taux de 30%, composé de 17,2% de prélèvements sociaux, 12,8% d'impôts. Là, j'ai aussi un choix à faire, est-ce que je reste au PFU ou est-ce que j'opte pour le barème progressif de l'impôt ? Et donc là, je vais être imposé à ma tranche marginale. Donc comment je choisis entre les deux ? Bah, là aussi, il faut regarder sa situation propre. Mais enfin, si je ne suis pas imposable à 0%, je ne vais a priori pas aller sur le PFU à 12,8. En revanche, je suis dans une tranche marginale d'imposition à 41%. Là, le PFU à 12,8 me paraît plus favorable. Les 17,2 de prélèvements sociaux, j'en parle pas. Ils sont dus, quoi qu'il arrive. Petite astuce quand même. Faites attention, c'est déjà pré-rempli ça sur votre déclaration d'impôt. On a parfois des associés qui nous disent... Ah mais super, c'est déjà fait. Non, non, c'est qu'une infime partie du dividende, hein, je rappelle, premièrement. Et deuxièmement, j'incite vraiment tout le monde à souscrire à sa déclaration en ligne, parce qu'en plus, l'administration fiscale vous aide. Et si vous ne choisissez pas le bon format entre PFU et barème, elle va vous mettre une petite alerte.
Ah, voilà. Ça, c'est on est pris par la main.
On est pris par la main. Pour les SCPI, c'est clairement plus facile de déclarer en ligne. Et attention, si vous faites le choix du barème l'année suivante, ça sera gardé en mémoire. Donc si votre situation a changé, pensez bien à vous remettre au PFU. Troisième et dernier type de revenu que j'ai dans mon dividende, donc, vous voyez, il y en a quand même trois. ça va être dans la catégorie des plus-values et gains divers. Mm-hmm. Plus-values et gains divers, c'est tout simplement les plus-values immobilières que va réaliser la SCPI quand elle va vendre des immeubles. Et donc, c'est aussi servi sous forme de dividendes. Là, c'est déjà payé l'impôt, rassurez-vous. Il y a eu un prélèvement de 19% à la source qui a été fait. C'est simplement reporté sur votre 2042C en case 3VZ. Ça va participer au calcul de votre revenu fiscal de référence. Et ça, c'est déjà payé. Voilà pour la première partie, donc le dividende.
Alors, ça, ce sont des revenus qu'on a touchés en France. Mais on le sait, parfois, les SCPI nous emmènent à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là si la fiscalité, par exemple, s'avérait plus avantageuse dans le pays où investit notre SCPI? Est-ce qu'on peut choisir? Enfin, voilà, comment on génère tout ça pour être au mieux, pas forcément avoir la double peine, enfin.
Oui, les revenus étrangers, c'est particulier. Il faut déclarer ses revenus sur la 2047, donc il faut prendre une annexe supplémentaire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir quand on a un patrimoine à peu près classique, hein, parce qu'on n'a pas tous des revenus étrangers. Néanmoins, donc quelque chose, deux trois points à rappeler en préambule. Pourquoi est-ce qu'on fait cette déclaration en France? Parce qu'en fait, les revenus étrangers, ils ont déjà été taxés dans le pays où se situe l'immeuble. Donc il y a déjà une première taxation. Donc ce qu'on fait en réalité sur la 2047, on vient déclarer pour éviter une double imposition en France. Donc on va décliner. Il y a deux méthodes de neutralisation de la double imposition en France sur cette 2047. Et c'est important de savoir aussi que c'est en général, comme vous l'avez dit, moins fiscalisé les revenus étrangers, principalement parce qu'on n'a pas de prélèvements sociaux sur cette partie-là. C'est quand même 17,2% de gagné.
C'est déjà ça.
Donc vous avez deux méthodes sur cette 2047. Vous avez de neutralisation de la double imposition. Vous avez le crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt, comment ça se passe? C'est des pays comme l'Allemagne qui sont éligibles au crédit d'impôt. Vous allez être imposé sur ces revenus en France, mais vous allez avoir un crédit d'impôt qui va être généré l'année suivante, qui va être calculé par rapport à votre taux moyen d'imposition et qui va venir gommer une grosse partie de l'impôt que vous aurez payé. Vous avez une deuxième méthode, donc ça c'est rubrique 4 et 6 de la 2047. Vous avez une deuxième méthode qui s'appelle le taux effectif. Là, ce sont pour des pays comme les Pays-Bas. Et là, vous n'allez pas être imposé sur ces revenus, mais vous allez les déclarer parce qu'ils vont être pris en compte pour calculer votre taux global d'imposition. Voilà. Donc ces deux méthodes qui fonctionnent différemment, mais qui donnent à peu près le même résultat en net.
Bon. Et tout ça, la SCPI, enfin le gérant de la SCPI, nous assiste, rassurez-nous.
Bien sûr. Alors c'est évident, on peut pas faire ça tout seul.
Voilà, c'est ça.
On se sert.
Nous prémâcher le travail.
Bien entendu, on envoie un IFU, un imprimé fiscal unique.
Donc où tout est marqué.
Voilà, où est-ce qu'il faut tout déclarer.
Il y a qu'à reporter.
C'est pas très compliqué, il y a quelques feuillets quand même, mais il faut être tout simplement rigoureux.
Bon.
Et bien la suivre.
Certains investissent dans des SCPI à crédit, avec bien évidemment l'idée de profiter de l'effet de levier. Il y a des choses à déclarer? Comment ça se fait là aussi?
Oui, alors comme n'importe quel investissement immobilier, on va pouvoir venir déduire les intérêts d'emprunt et les primes d'assurance de ces revenus de SCPI, de ces dividendes. Mais là encore une fois, attention, en présence de revenus étrangers, il va falloir ventiler cette déduction. Je prends un exemple, vous avez une SCPI avec 50% de revenus français, 50% de revenus allemands. Et ben, je vais devoir déduire 50% de mes intérêts et primes d'assurance de mes revenus français et 50% de mes revenus allemands. Je ne dois pas tout, par exemple, imputer sur les seuls revenus français, ce qui pourrait paraître plus intéressant, parce qu'ils sont un peu plus imposés. Je l'ai dit, il y a les prélèvements sociaux en plus. Non, je dois bien ventiler. Et là encore, l'IFU, donc l'imprimé fiscal unique de la société de gestion, me donne bien entendu la grille de ventilation à respecter.
Et donc on s'y retrouve en suivant l'IFU avec le formalisme nécessaire.
Absolument.
Merci beaucoup d'être passé nous voir, Guillaume Berthiaud, donc responsable de la gestion privée de Sofidy. On continue bien évidemment notre marathon hier ce matin. On vous accompagne jusqu'à midi et puis suivrons 90 minutes business aussi avec Sandra Gandoin tout à l'heure pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées au cours des derniers jours en nous écrivant. Eh bien, on est à votre service ce matin.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.